rebonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes sur la radiographie de 94.9 ou graphite.net sur le web. Donc je suis Stéphane, responsable du cours IS03, lot technicisation et numérique, donc un cours de l'Université de technologie de Compiègne. Et aujourd'hui, on vous présente depuis 13h30 les étudiantes et étudiants qui ont mené des projets ce semestre. Et bien vous présente les résultats de leurs travaux qui consistaient à imaginer des outils numériques qui étaient eux-mêmes low-technicisés ou qui allaient permettre de low-techniciser d'autres objets. Alors on est en studio avec Léonie et Karl. Bonjour Léonie et Karl.
Bonjour.
Donc pour ce dernier projet, vous allez nous présenter votre travail autour d'Ecosia, donc un projet qui a pour objectif de responsabiliser notre usage du web avec un navigateur éco-pédagogique. Vous allez nous dire, ou éco-éducatif, vous allez nous dire un petit peu ce que cela veut dire, et vous avez été aidé pour ce projet par Sylvain Spinelli de la société Kélis. Et bien si c'est bon pour vous, Léonie, tu as la main pour nous présenter ton projet.
Ça marche, merci beaucoup. Alors du coup, comme vous l'avez très bien introduit, nous allons donc vous parler du projet Ecosia, qui est un navigateur éco-pédagogique. Donc le principe en fait de ce navigateur, c'est de sensibiliser l'utilisateur pour lui partager les valeurs environnementales d'Ecosia, à savoir du coup réduire les conséquences environnementale que pourrait avoir la navigation web. Donc le principe, en fait, le pilier principal de ce projet finalement, c'est l'éducation, puisqu'en fait, par le biais de l'éducation, on va pouvoir responsabiliser l'utilisateur et donc de ce fait permettre une prise de conscience des conséquences environnementales qu'a la navigation et du coup durablement pouvoir changer cela en tant qu'utilisateur. Et d'une façon générale, on vise tout public, puisque c'est un navigateur qui est pédagogique. De ce fait, on va pouvoir toucher même les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées par les enjeux environnementaux. Donc je vais tout de suite passer à l'état de l'art du coup qu'on a pu dresser pour ce projet. Donc on est tous conscients qu'on est complètement dépendant de d'Internet et de la navigation web de nos jours. Et donc le principe de ce projet, c'était pas de restreindre cette navigation, mais c'était plutôt d'accompagner les utilisateurs vers une utilisation qui serait plus frugale en quelque sorte du navigateur. Donc un peu à la façon d'utiliser le vélo une fois de temps en temps plutôt que d'utiliser uniquement sa voiture. C'est un peu comme des petits gestes du quotidien en quelque sorte appliqués à la navigation. Donc à l'origine, on s'était interrogé sur les optimisations à appliquer lors de la consultation de sites internet, par exemple avec la mise en avant de sites avec des designs plus frugaux, donc qui consomment moins, et également une évaluation du poids des sites. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que dans un premier temps, ça n'avait pas beaucoup d'impact en fait sur les conséquences de l'utilisateur, enfin des conséquences environnementales de l'utilisateur avec sa navigation web, mais également que les critères d'évaluation du poids des sites étaient complètement arbitraires. Et donc on a voulu changer d'approche pour pouvoir avoir un réel impact et aussi un projet qui serait possiblement qu'on puisse mettre en place réalistiquement. Et donc, dans cette optique-là, on a décidé de se pencher un peu plus sur la RAM, dont Karl va vous parler un petit peu plus tard. Et pour vous introduire un petit peu le principe du projet, c'est qu'on a pu remarquer que le manque de RAM lors de la navigation Internet ralentissait l'ordinateur. Et en tant qu'utilisateur et également consommateur d'Internet, on va naturellement chercher en fait à simplement changer les composants de notre ordinateur pour justement empêcher cette lenteur de l'ordre de notre navigation. Et on a pu constater par un rapport de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que faire durer nos équipements, donc composants, tout ce qui est lié aux ordinateurs au final, était le geste le plus efficace pour diminuer leur impact. Passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50% son bilan environnemental. Donc c'est vraiment le point central en quelque sorte de notre sujet, c'est de conserver, en fait, de préserver nos composants type ordinateur, etc. Et donc, du coup, on a essayé dans un premier temps de concevoir des fonctionnalités qui permettraient d'accompagner l'utilisateur dans sa responsabilisation de son utilisation du navigateur avec, du coup, une sorte de questionnaire de QCM. Et donc, dedans, il pourrait renseigner son type d'utilisation. Donc, par exemple, il pourrait dire à quelle fréquence il utilise le navigateur web ou, par exemple, pour quel type d'utilisation, comme s'il est étudiant, il peut le mentionner, sans s'immiscer dans sa vie privée, bien sûr. Puis, dans un deuxième temps, dans la deuxième partie du questionnaire, on pourrait avoir des questions plutôt pour lui dresser un profil dans ses engagements écologiques. Donc, par exemple, en lui posant des questions du type « Quel est le poids en CO2 de l'envoi d'un mail ?» Et enfin, on pourrait finir sur les propres attentes de l'utilisateur par l'utilisation du navigateur Ecosia. Donc pour se mettre un peu plus à la place des potentiels utilisateurs d'Ecosia, on a essayé de rédiger des petites histoires et je vais donc vous lire l'une d'entre elles qui parle d'une étudiante qui est sensible aux enjeux climatiques. Donc Isabelle est une jeune étudiante engagée dans la lutte contre la crise climatique. Lorsqu'elle doit rédiger ses rapports, elle utilise beaucoup son navigateur web, mais elle se questionne comment réduire son impact écologique lors de sa navigation. Les géants de la navigation lui semblent trop éloignés des valeurs et de son idéologie, et bien que certains navigateurs proposent des compensations écologiques, comme par exemple planter des arbres, elle veut se sentir réellement actrice dans sa lutte et ne pas rester passive. En faisant des recherches sur l'impact de l'utilisation du web, elle tombe sur un navigateur, Ecosia, plus frugal et sensible aux enjeux climatiques. Elle n'est pas convaincue tout de suite, sceptique par les intentions derrière ce navigateur, mais elle joue le jeu et l'installe. Le navigateur lui propose dans un premier temps un questionnaire sur ses habitudes d'utilisation ainsi que son engagement et ses attentes. Elle teste donc un peu plus le navigateur, il lui permet d'enfin comprendre et de mettre en pratique les actions pour réduire l'impact de sa navigation web, moins d'onglets, limitations dans la génération du contenu audiovisuel et d'autres fonctionnalités. Elle adopte alors définitivement ce navigateur, lui permettant de continuer ses recherches universitaires de façon simple, claire et optimisée, en contrôlant son utilisation suivant ses valeurs écologiques. Donc du coup, ce qu'on a pu faire ressortir dans cette histoire, en fait, c'est cette idée-là de profil utilisateur. Et là, comme Isabelle est vraiment très engagée dans la lutte contre la crise écologique, en fait, elle va avoir des fonctionnalités qui peuvent être plus multiples ou plus restrictives, comme par exemple avec une limitation du nombre d'onglets. On a quand même pu constater quelques limites dans l'accomplissement de notre projet. Par exemple, le navigateur représente beaucoup de fonctionnalités, donc on pourrait dire que c'est un petit peu contradictoire par rapport au principe même du navigateur, qui est de le rendre un peu plus frugal. Du coup, on a un peu, comme l'ont dit d'autres groupes, on a fait une sorte de pari pour justement essayer de pallier ce problème et donc pouvoir potentiellement, progressivement, désactiver certaines fonctionnalités en fonction de l'apprentissage de l'utilisateur avec quelques petits questionnaires qui pourraient juger justement de l'apprentissage des utilisateurs. Et donc, juste ensuite, on va vous passer un extrait de la vidéo de la chaîne YouTube Brut, qui est un média en ligne français, publié le 23 janvier 2019 sur « Comment utiliser Internet de manière éco-responsable ». Donc, c'est l'épisode 3 de leur série sur les gestes éco-citoyens, avec Julien Vidal de « Ça commence par moi ».
Derrière nous, on pourrait penser qu'on a un bâtiment tout ce qu'il y a de plus classique, et pourtant, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a un data center, le 8e en termes de connexion dans le monde, et forcément le premier en France. Tous ces data centers, ils polluent énormément. Aujourd'hui, Internet, il faut savoir que si c'était un pays, ce serait le 6e consommateur d'électricité au monde. Maintenant, il faut savoir que quand même, le streaming vidéo représente 60% du trafic Internet mondial. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait moins mais mieux. Moins en évitant le binge-watching sur Netflix et mieux en utilisant d'autres plateformes vidéo, notamment Imago TV qui met à disposition documentaires et podcasts pour tout comprendre sur les enjeux de la transition. Alors voilà, Internet, c'est un outil extraordinaire et je vous dis pas du tout qu'il faut arrêter d'utiliser, mais au contraire, l'utiliser plus intelligemment grâce à toutes les astuces que j'ai pu vous partager dans cette vidéo. Car finalement, changer son monde, c'est changer le monde et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi.
Alors moi, je vais vous parler du maquettage. Donc durant cette phase de maquettage, nous avons imaginé différentes fonctions qui seront le point central d'Ecosia. Donc pour imaginer ces fonctions, nous avons fait des petites histoires comme vous a parlé Léonie et nous sommes mis à la place de différents utilisateurs allant de l'enfant qui fait ses premiers pas sur Internet aux personnes âgées ayant des difficultés d'accessibilité ou encore des étudiants qui passent beaucoup de leur temps sur Internet. Et à ce titre, on a mis en scène une maîtresse d'école qui veut apprendre à ses élèves comment surfer sur le net responsablement et en toute sécurité. Pour cela, Ecosia apporte un lot de fonctionnalités telles que l'affichage de la RAM utilisée par le navigateur ou encore le glossaire pour mieux s'y retrouver dans tout le vocabulaire propre à l'informatique. Mais alors, qu'est-ce que la RAM ? Donc la RAM est une mémoire vive et c'est un type de mémoire qui est présent dans tout appareil informatique et qui a pour but d'éviter d'utiliser la mémoire du disque dur. Donc elle a pour avantage d'être temporaire. Et donc c'est cet avantage qui est... Un, deux, trois. C'est cet avantage qui est... Pardon.
Tout va bien. Reprends ton souffle. tu es en train de parler de la RAM, la mémoire des outils électroniques.
Et donc cet avantage, il constitue une force. C'est pour ça que c'est utilisé par les navigateurs qui ne souhaitent pas stocker des données durablement sur le disque dur et donc ils préfèrent utiliser la RAM puisqu'ils utilisent des données temporaires. Néanmoins, bien qu'il faille éviter à tout prix de surcharger la RAM, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser à 100%. Puisque quand on utilise 50%, on consomme autant que quand on utilise 90% de la RAM. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'économiser toute la RAM et de ne pas utiliser son plein potentiel. Donc dans notre fonction d'affichage de la RAM, nous l'avons découpée en plusieurs parties. Donc une première partie qui va afficher les informations complémentaires sur l'état du site web, donc les raisons derrière la demande en RAM ou la consommation en borne passante, et les conséquences d'une telle utilisation sur les ressources. On notifiera également l'utilisateur si le site web consomme trop de RAM par rapport à ce que l'on pense raisonnable. Et enfin, avec le glossaire, il y aura des comparaisons plus parlantes pour les utilisateurs. Par exemple, s'il ferme un onglet qu'il a ouvert depuis longtemps, on le notifiera que, par exemple, ça fait un trajet entre une ville X et Y en voiture. Et on peut également citer d'autres fonctionnalités de notre navigateur, qui est la fonctionnalité de blocage de pub. Et pour imaginer cette fonctionnalité, nous sommes demandé quels seraient les moyens les plus efficaces de réduire la consommation de nos navigateurs Internet. Les recherches de l'état de l'art nous ont amené à penser que ce sont les pubs, les publicités sur Internet qui consommaient énormément. Et donc nous avons décidé d'intégrer un bloqueur de pub dans le navigateur qui serait activé pour tous. Néanmoins, cela pose des questions sur le financement de Ecosila, puisqu'on se doute que les sites seront réticents à être hébergés par Ecosila, puisqu'ils n'auront pas de moyens financiers de revenus à cause des pubs. Et donc nous espérons que les sites traitant de l'écologie seront disponibles sur Ecosila, mais également nous réfléchissons à d'autres moyens de financement tels que le financement participatif pour financer Ecosila. Et outre les nombreuses fonctionnalités de régulation de la navigation Internet, le point fort d'Ecosila est qu'il est un navigateur éco-éducatif et qu'il a pour but d'éduquer ses utilisateurs qu'ils ne se fassent plus tromper dans les politiques de greenwashing. C'est-à-dire les politiques faussement engagées dont l'engagement est uniquement utilisé comme atout marketing. D'ailleurs, Ecosila opte pour un référencement plus faible des sites opérant le greenwashing ou bien d'autres politiques trompeuses pour l'utilisateur. On peut alors penser à une communauté d'utilisateurs engagés qui pourrait dénoncer ce genre de comportement et en alerter les autres utilisateurs d'Ecosila. Néanmoins, dans une dernière partie, j'aimerais nuancer certains aspects de ces fonctions. En effet, il est difficile de quantifier certains aspects du navigateur. Pour ce qui est de la fonction d'affichage des données passantes et du nombre de requêtes entre les serveurs et le navigateur, beaucoup de ces données sont chiffrées, ne sont pas traçables, ce qui rend difficile, voire impossible, l'exploitation de ces mêmes données. La présentation d'alternatives libres repose uniquement sur le travail bénévole et il pourrait parfois être difficile de proposer certaines alternatives au site si la base de données n'est pas souvent mise à jour. Par alternatives libres, nous entendons la proposition de sites proposant des logiciels libres de droit, par exemple LibreOffice préféré à Google Docs, etc., et non des logiciels propriétaires. Et de plus, lorsque nous évoquons des sites web trop gourmands en RAM, il faudrait donner un ordre d'idée, toujours la même idée de base de données pas mise à jour.
Ok, merci à vous de cette présentation. On va compléter avec une ou deux questions, si vous voulez bien, pour terminer cette émission. Vous en avez parlé un petit peu, mais on peut peut-être revenir un tout petit peu là-dessus. Hein. Vous avez posé le problème de la publicité, donc vous avez identifié comme étant un des facteurs importants d'impact. Il y a aussi, alors ça joue peut-être, pas aussi directement sur la RAM. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous sauriez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que justement la publicité fait partie du problème. C'est peut-être pas évident. Alors on voit bien l'impact de la publicité sur les problématiques de soutenabilité en général, mais pourquoi sur le navigateur est-ce qu'à un moment ça vient en impact? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Par exemple, quand on lance une page internet avec une pub, c'est souvent des pubs, c'est très visuel, c'est des vidéos, des photos, et du coup ça fait de nombreuses demandes au serveur, et c'est très lourd, ces demandes-là, les vidéos, même le site, dans la vidéo ils en parlent, mais le site de streaming vidéo, c'est l'impact environnemental, c'est vraiment énorme, et donc rajouter déjà des sites web, des nouvelles vidéos de pub, ça rajoute encore, ça rajoute sur
Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y a une communication entre le site hébergeur et le domaine publicitaire, parce que bien sûr, ce n'est pas le site lui-même qui fournit les publicités, c'est une sorte d'espace, un peu comme un panneau d'affichage en quelque sorte libre, et donc du coup, il va y avoir des pubs qui vont pouvoir s'implémenter ici, enfin sur l'espace libre laissé par le site, et du coup, il y a déjà une communication supplémentaire entre le domaine publicitaire et le site hébergeur. Donc d'une façon générale, c'est comme si on rajoutait un peu un trajet en voiture, si on veut visualiser ça, on rajoute un trajet en voiture, alors que il pourrait être évité justement avec un bloqueur de pub.
Ouais, donc vous avez fait le lien, c'était le début de ma question, mais je voulais pas vous donner la réponse en même temps, mais vous avez fait le lien. Un des liens, c'est le problème de la vidéo. Donc effectivement, on l'entend aussi dans votre extrait, hein, d'une façon générale, il faudrait réduire la vidéo, mais vous l'avez noté, le fait de consommer de la vidéo pour la publicité, c'est-à-dire au moment où on ne veut pas de toute façon consommer de vidéo, parce qu'on veut peut-être juste une petite information textuelle qui elle-même et en elle-même ne représente pas beaucoup, mais en fait on va avoir un x10, x100, x1000 ou même encore plus, parce que la publicité va venir avec. Et donc c'est ça le problème que vous avez soulevé là-dessus. Ok. Peut-être une autre question sur laquelle je voudrais vous... vous avez parlé de greenwashing, vous en avez donné une définition un peu courte. Est-ce que vous auriez peut-être quelques éléments complémentaires à nous donner là-dessus, des exemples, ou alors vous avez évoqué l'idée d'une communauté qui permettrait de lutter ou de dénoncer un peu les actes de greenwashing. Est-ce que, voilà, je trouve que c'est un point assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus beaucoup de personnes pour officiellement nier les impacts écologiques. Donc on est plutôt rentré dans une phase où on va essayer on va parfois faire semblant. Et donc l'enjeu, c'est de lutter un peu contre ça. Vous avez des éléments autour de ça ?
Oui, bien sûr. Déjà, le greenwashing, du coup, pour donner une définition peut-être un petit peu plus détaillée, c'est globalement, par exemple, ça va être des sociétés, des entreprises. On va prendre l'exemple d'entreprises, par exemple, qui vont en quelque sorte donner une fausse conscience environnementale pour attirer un public qui serait sensible à la crise climatique. Et donc, d'une façon générale, on peut par exemple penser à, je sais pas, ça peut être une compagnie aérienne, par exemple. Je crois que ça a déjà été fait, mais une compagnie aérienne qui dit oui, il n'y a pas d'émissions de carbone avec nos vols, on n'émet pas de carbone, ce qui est faux, mais en fait c'est parce qu'ils utilisent ils utilisent une compensation écologique. Donc par exemple ils vont planter des arbres ou faire tout autre type d'action, et donc du coup c'est pour dire regardez, on est bien écologiquement parlant, on est sensible, vous voyez, on fait ça. Mais au final c'est plutôt un atout marketing qu'une vraie conscience écologique. Et d'ailleurs, les moyens de compensation, par exemple planter des arbres, il y a beaucoup de soucis avec ce type de compensation. Par exemple, le fait de planter des arbres, on n'est pas sûr que l'arbre va se développer, va pas brûler, par exemple, avec la multitude d'incendies qu'on a pu voir ces dernières années. Mais d'une façon générale, c'est pas très quantitatif non plus. On peut pas vraiment dire cet arbre-là va pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de cette compagnie aérienne. C'est un petit peu compliqué à quantifier, et donc c'est surtout un atout, voilà, c'est un atout marketing qui est généralement utilisé pour se donner une fausse conscience. Et donc du coup le principe en fait de cette communauté d'utilisateurs, ce serait des gens qui seraient du coup qui utiliseraient Ecosia, qui pourraient faire part de retours en quelque sorte, un peu comme des commentaires sur des sites de voyage, de destination, tout ça, où on pourrait faire un commentaire en fait pour dire ce site là semble faire du greenwashing parce que x y raison. En fait, ce serait vraiment des utilisateurs d'Ecosia qui seraient engagés et qui voudraient faire changer les choses en quelque sorte. Et du coup, on pourrait penser, par exemple, que si quand l'utilisateur passe sa souris sur un certain site qui est potentiellement coupable de greenwashing en quelque sorte, eh bien, l'utilisateur soit alerté.
Ok. Alors, ça rejoint une autre question qui a été posée autour de l'attractivité. Hein, si je rebondis un petit peu sur le cas de l'héroïne d'une de vos histoires, là, Isabelle, c'est déjà quelqu'un d'engagé. Et donc, effectivement, la question qui est posée ici, c'est dans quelle mesure un outil comme Ecosia, finalement, ne serait pas juste un endroit où se retrouvent des gens déjà convaincus, engagés, etc. Comment est-ce qu'on fait à la fin pour aller toucher peut-être sensibiliser des gens qui ne font pas partie déjà du réseau impliqué, quoi, déjà d'emblée dans ces questions-là.
Bah, du coup, là est tout l'enjeu du navigateur éco-pédagogique, parce qu'en fait, Karl d'ailleurs a présenté l'exemple de la maîtresse d'école qui parle à ses élèves. En fait, on pourrait avoir tout type de public qui pourrait par exemple, avoir Ecosia comme navigateur par défaut. Par exemple, dans des universités, on pourrait penser une mise en place de Ecosia comme navigateur par défaut, et donc de ce fait, pouvoir transmettre les valeurs. Les valeurs de Ecosia, même à un public qui lui-même ne s'est pas forcément renseigné sur ces questions liées à la crise écologique. Mais d'une façon générale, c'est vrai que c'est surtout là, c'est l'aspect pédagogique en quelque sorte qui va vraiment être attractif. Et même si des utilisateurs d'Ecosia n'ont pas forcément cet intérêt-là pour les enjeux environnementaux, eh bien, il y a une fonctionnalité par défaut. Donc, si on ne complète pas le QCM d'entrée en quelque sorte d'Ecosia, il va y avoir une navigation déterminée par défaut qui ne va pas présenter des fonctionnalités personnalisées, qui va juste se contenter en quelque sorte du strict minimum. Et donc, du coup, qui va quand même faire en sorte de faire passer des valeurs environnementales, mais sans restreindre la navigation, par exemple. Ou, d'une façon générale, c'est juste de la sensibilisation. Donc, si jamais ça agace en quelque sorte l'utilisateur, il pourra toujours désactiver les fonctionnalités et avoir un navigateur en quelque sorte normal, même si bien évidemment Ecosia a quelques fonctionnalités qui sont implémentées par défaut et qui en principe ne devraient pas embêter l'utilisateur, comme par exemple du coup un bloqueur de publicité.
Alors deux petites questions petites pour terminer, hein, comme c'est la dernière, j'en profite. C'est des questions peut-être un petit peu plus polémiques ou d'ouverture ou de discussion, donc sentez-vous libre de les traiter comme vous avez envie. Mais la première, c'est que vous avez bien mis en évidence le principal problème du numérique aujourd'hui, enfin en tout cas un problème assez fondamental, c'est la question du renouvellement du matériel. Hein. On nous a longtemps parlé du fait de ne pas envoyer des mails. Donc la question de la consommation électrique, évidemment, elle existe, mais aujourd'hui le problème fondamental, c'est celui des objets numériques. Alors c'est évidemment les téléviseurs, c'est les afficheurs publics, et c'est aussi des objets comme les smartphones. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, et aujourd'hui, si on renouvelle son smartphone, finalement, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une question de RAM et du fait qu'il commence à dysfonctionner, ou à un moment, c'est beaucoup des effets de mode qui sont premiers? Donc est-ce que vous pensez que jouer sur une dimension pédagogique, explicative, autour de ces aspects-là, va vraiment avoir une influence sur quelque chose qui, finalement, est peut-être plutôt un objet de mode et de distinction sociale.
Je pense que les gens, ils se rendent de plus en plus compte que c'est problématique de renouveler souvent ces appareils électroniques. Déjà, par exemple, il y a l'essor des sites de revente de téléphones. Donc, je ne sais plus le nom des sites, mais... Bref.
Vous avez cité Label Emmaüs tout à l'heure, où ça a été cité, ou Back Market, ça a été cité,
ouais, voilà, Market, d'autres. Etc. Et donc, les gens se rendent compte de ça. Et je pense que vraiment, il y a aussi le problème de l'obsolescence programmée qui fait que les gens renouvellent aussi rapidement leur téléphone portable, par exemple. Et je pense que déjà, avoir un navigateur qui utilise moins d'onglets, qui utilise moins de RAM, ça peut. Un peu compenser le problème d'obsolescence programmée et éviter que certaines personnes renouvellent trop vite leur téléphone, bien qu'il y aura toujours évidemment des gens qui changeront leur téléphone pour juste par effet de mode, mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients par rapport à ce problème.
Ok, donc apporter un peu de rationalité, d'information, selon vous, va aider à avancer, ce que évidemment je partage. Allez, peut-être une dernière question à l'inverse. Donc si on parle plus des gens qui changent de smartphone tous les 6 mois, mais au contraire de gens qui auraient une vision peut-être encore plus radicale. Ici on a une question, hein, c'est Titouan, il a mis son prénom, donc je le cite, qui la pose. Dans les démarches que l'on a vues, il y a le triptyque éviter, réduire, compenser. Donc là, vous avez parlé de la compensation ou de la réduction. Mais finalement, on pourrait aller jusque à éviter. Donc est-ce que des gens un peu plus radicaux pourraient dire, mais finalement, est-ce qu'on a besoin de continuer d'avoir un web ou un internet qui fonctionne? Et est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple, finalement, de couper le mal à la racine et de se débarrasser carrément de l'internet, plutôt que de chercher à expliquer aux gens qui doivent moins renouveler leurs appareils, etc.
Bah après, c'est sûr, forcément, si on veut effectivement couper le mal à la racine, on pourrait se débarrasser de tellement de choses. Mais c'est vrai que, comme je l'avais mentionné lors de ma présentation de l'état de l'art, en fait, la navigation web, elle est complètement indispensable de nos jours pour plein de choses. Et du coup, Ecosia, c'est surtout l'idée d'accompagner les utilisateurs vers une diminution des conséquences de leur utilisation. Mais c'est vrai que c'est surtout un outil pour les accompagner vers une transition, peut-être qui mènera plus tard à un arrêt total de la navigation web. Mais c'est sûr que c'est assez utopique de se dire ça, en tout cas de nos jours. Donc on va plutôt essayer de réduire cette consommation plutôt que de dire tout ou rien, quoi. On ne va pas se dire, soit on utilise le navigateur web à son plein potentiel et tant pis si ça a des conséquences environnementales. Ou alors juste dire on va juste pas du tout l'utiliser parce qu'il y a des conséquences. C'est plutôt faire une sorte de transition entre les deux, pas forcément vers l'arrêt total, parce que ça me semble un peu utopique. Je sais pas ce que t'en penses, Karl, mais je trouve ça un peu utopique.
Je pense que c'est un peu trop tard pour l'arrêt total. Après, la réduction, je pense que ça peut venir avec le temps. Peut-être que les gens ils se rendront compte que ils sont trop sur leur téléphone, même pas forcément pour l'environnement, mais juste pour leur santé mentale. Mais l'arrêt total, c'est impossible. Trop de procédures se passent par Internet maintenant. Par exemple, pour réserver son billet de train, bonne chance pour aller prendre un billet de train en physique maintenant. C'est vraiment tout en digital, limite.
Ouais. Et puis, un exemple que je prends habituellement, que j'ai dû prendre en cours à un moment, c'est que même aujourd'hui, l'objectivation des problématiques environnementales, donc la question écologique elle-même, elle est complètement traversée par les usages du numérique. Les experts du GIEC travaillent avec des outils numériques, partagent des informations autour des questions numériques. On voit aujourd'hui que les questions de l'eau sont modélisées par des outils numériques, etc., etc. Donc, effectivement, s'en débarrasser complètement, en tout cas, ça poserait d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot ou peut-être qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui.
Non, moi, c'est bon.
Non, pour moi, ça va aller.
Eh ben merci à vous, merci Karl et Léonie, merci à tous ceux qui sont passés avant vous. Donc on est sur Graphite 94.9, c'était les restitutions des étudiantes et étudiants du cours L'eau, technicisation et numérique à l'UTC qui sont venus nous présenter ce qu'ils ont réalisé pendant ce semestre. Et puis eh bien on se retrouve à nouveau mardi prochain à 13h30 pour 6 nouvelles présentations de projets durant l'après-midi. Une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.